Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 151. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts plutôt en anglais sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Alors mon invité aujourd'hui est Bertrand Girin. Après avoir étudié le chinois, Bertrand démarre sa carrière professionnelle à Shanghai en participant à la création des activités du groupe Air Liquide en Chine. Ensuite, après une expérience de l'entrepreneuriat, il se lance en tant qu'entrepreneur à multiples reprises. En 2019, il co-fonde Semji, une solution basée sur l'IA pour aider les marques à rédiger du contenu optimisé pour leur public et pour Google. Dans cet entretien avec Bertrand, nous discutons de la création de Semji, des évolutions de l'IA, les enjeux et les opportunités que représente Semji pour les créateurs du contenu et les médias, l'avenir du journalisme et l'éthique autour de cette entreprise à la pointe de l'IA. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bertrand Girin, je suis ravi de t'avoir sur mon podcast.
J'ai eu la chance. Bonjour Winter.
Merci. J'ai eu la chance de te rencontrer et découvrir le projet nouveau sur lequel tu et vous travaillez, qui est passionnant, vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'écriture. Ça s'appelle Semji. Mais d'abord, commençons par toi. Qui est Bertrand Girin?
Alors, vraiment enchanté, Minter, d'être avec toi, de partager ce moment. Donc moi, j'ai 54 ans, j'ai donc une trentaine d'années de vie professionnelle, et j'ai une vie professionnelle assez diverse et assez bien remplie. J'ai bossé 15 ans dans un groupe, un grand groupe industriel qui s'appelle Air Liquide, à l'international. J'ai ouvert la filiale d'Air Liquide il y a 30 ans en Chine, enfin, j'ai fait des trucs assez sympas. Ensuite, j'ai eu une grosse chance aussi, c'est que j'ai monté un fonds d'investissement avec le groupe Air Liquide pour investir dans des entreprises européennes de la technologie. Et ça, ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai découvert le monde de l'entrepreneur que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné envie, ça m'a fait briller. J'ai rencontré des gens qui avaient les yeux qui brillaient. Et moi, je me suis dit, moi aussi. Et donc, à 15 ans, j'ai passé le cap. Et je suis devenu entrepreneur et j'ai monté 3 entreprises successivement, et dont Semji, qui est la dernière. Voilà. Alors, mon parcours.
Génial. Et qu'est-ce qui t'a fait lancer Semji? Quelle était la naissance de cette idée-là?
Alors, Semji, c'est le fruit d'une rencontre avec mon associé Nicolas, qui était quelqu'un qui avait bossé pour moi en tant que... lui était fournisseur, c'est un expert du SEO, hein, Search Engine Optimization, le référencement en français. C'est un gars assez connu hein, dans le milieu. Et il y a 12 ans de ça, on a d'abord monté, avant Semji, ça s'appelait Réputation VIP, on s'occupait de la réputation des marques et des dirigeants sur Google. Et ça, c'est arrivé parce que... Deux boîtes avant, j'avais monté une boîte où on faisait de la levée de fonds et on avait une levée de fonds qui avait planté à cause d'un problème de réputation sur Google d'un des dirigeants. C'était une très, très belle boîte. Et j'ai réalisé le pouvoir de Google il y a 15 ans de ça. Donc, Google était tout jeune hein, à l'époque. Et j'ai dit, ouais, Google, t'as un véritable média avec un pouvoir de dingue. Et il y a un vrai sujet et c'est un sujet algorithmique, en fait. Voilà. Et donc, avec Nicolas, on a lancé ça. Et puis, on a pivoté, on a fait plein de choses, mais toujours avec notre cœur de métier. Finalement, notre ADN, c'est le SEO, c'est la connaissance intime des fonctionnements de Google. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a évolué, on est devenu un éditeur de logiciels depuis 4 ans, qui est un logiciel qui va aider les entreprises à gérer toute cette chaîne du contenu, en fait, pour le web, pour faire des contenus performants, à la fois qui vont parler à leur audience, qui vont être intéressants pour leur audience, et puis qui vont être visibles sur les moteurs de recherche.
Ce qui est fascinant dans ce que tu dis, d'abord, ça pointe sur la puissance de Google quand même. C'est tellement utilisé, un peu moins en Chine, pas du tout, à moins d'avoir VPN. Mais le fait que vous avez commencé ce projet, ce trajet il y a 4 ans, ça veut dire que vous l'aviez sorti avant que Generative AI, le ChatGPT et compagnie, soient existants, de ce que je comprends. C'était aux prémices, on va dire, au début, mais. Donc, vous avez dû évoluer et surfer sur cette vague. Est-ce que ça rend les choses davantage difficiles, complexes, ou ça vous donne des élans incroyables?
Alors nous, ça nous donne un élan incroyable parce que en fait, on était déjà sur ce qu'on appelle les technos de machine learning qui sont à la base de la generative AI. C'est un changement d'échelle, mais c'est donc. Et nous, quand on a conçu SEMJ il y a 4 ans, déjà on avait besoin de techno de machine learning pour faire ce qu'on fait, en fait. Je te donne un exemple. En fait, nous, notre credo, c'est avant d'écrire, il faut connaître son audience. Donc, on va récupérer énormément, énormément de data sur le sujet sur lequel tu veux écrire. Moi, si je te donne en tant qu'humain 10 000 champs sémantiques, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'en fais?
Inondation.
Innovation, ça sert à rien. Donc, comment tu fais? Tu rends intelligible 10 000 champs sémantiques à un humain pour que ce soit intéressant et to the point, quoi, hein, pour lui. Et ben ça, c'est avec du machine learning, c'est avec des technologies qui sont proches de l'IA, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'était déjà voilà possible. Ces technos existaient il y a 4 ans et les choses se sont accélérées et maintenant, c'est sûr que la GenAI pour nous est un outil, une opportunité assez extraordinaire, d'autant plus qu'on connaît très bien ces technos, en fait.
Alors, Semji, on va décrire un peu plus. Donc, c'est pour créer du contenu qui est efficace et bien pour quelqu'un qui le lit et qui est bien pour le Google, c'est-à-dire qui correspond aux critères de Google. C'est pour qui et qui l'achète?
Alors, on a 400 clients dans 15 pays différents. On gère ça dans 15 langues différentes. Et c'est pour des entreprises qui sont généralement au moins une centaine de personnes. Voilà, c'est un certain coût, hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités jusqu'à des très grandes entreprises. Et en termes de secteur, on va avoir 4 grands secteurs principaux. Il y a tout ce qui est retail, hein, donc des e-commerçants ou des commerçants qui aussi vendent en ligne. On a les banques, les assurances et les médias. Et en fait, après, ça s'adresse aussi à plein d'autres secteurs parce que écrire, générer du lead, hein, le but du jeu, hein, c'est générer du business. Donc, pour un média, ça va être augmenter ma visibilité, augmenter mon trafic. Hein, donc, ça, c'est important pour un média. Pour un retailer, ça va être augmenter mes ventes. Et puis en B2B, ça va être augmenter mes leads. Hein, voilà, typiquement, tu vois, les assurances, ben, ce qu'ils vont chercher, soit ils vendent des assurances en ligne, mais souvent ce n'est pas le cas. Ils vont plutôt chercher un contact, un lead, et ensuite ils vont le passer à un agent d'assurance qui va traiter le lead.
Et donc, selon le secteur, vous travaillez avec ces clients sur des KPIs et un ROI quelque part. Enfin, comme tu dis, c'est pas donné. Mais à la fois, enfin, si on peut regarder les coûts sans avoir SMG, c'est-à-dire d'embaucher des gens, des journalistes, des écrivains pour créer ce contenu, des social media experts, ça quand même remplace pas mal de monde.
Alors, en fait, ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ça apporte concrètement. Et nous, on aime beaucoup les KPI. Donc, il se trouve que CMJ, il y a toute une fonctionnalité aussi d'aider à mesurer en fait l'impact. Et donc nos clients, ils connectent en fait leur Search Console, ils vont connecter leur Google Analytics, leur Adobe Analytics, peu importe. Et nous, on a accès à toutes ces données. Donc on voit l'impact de SEMJ. Et donc on a fait des études pour comprendre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, nos clients, ils font 40% de trafic en plus ou de vente en plus suivant leur KPI en fait, hein. 40%. J'utilise pas SEMJ versus j'utilise SEMJ. La différence, c'est 40%. Donc et ça, c'est une moyenne. Donc, c'est important.
Ça donne envie.
Voilà. Le deuxième aspect qui est important pour les clients, c'est le gain de temps. Toute cette gestion du contenu de « donne-moi des idées » jusqu'à « aide-moi à mettre à jour des contenus existants », tout ça, évidemment, écrire, on divise le temps par 6. Donc, je te laisse imaginer, voilà, les gains de productivité en utilisant SMJ, c'est vachement important. Là, et nous, on écoute beaucoup nos clients. Tu vois, quand on a lancé ce qu'on appelle Atomic Content, là, c'est comment j'utilise la GenAI pour rédiger un contenu. En bêta, il y a des clients dans les médias qui nous ont dit « Ah, c'est génial ton truc, c'est très quali, c'est ce qu'on cherche. » Par contre, nous, on n'a pas les sources, on ne sait pas s'il n'y a pas des hallucinations, hein, c'est un des problèmes de l'IA. Et là, on a sorti la semaine dernière « Fact-checking ». Donc ça, c'est « Ok, on génère un contenu, mais je suis capable de te dire c'est quoi les faits qui sont énoncés sur ce contenu. » Est-ce que c'est fait, il y a des sources, c'est quoi les sources, et est-ce que les sources, elles sont fiables, et ça fait gagner un temps énorme à un journaliste par exemple pour dire ok, là ces faits là a priori ils sont fiables, j'ai pas trop besoin d'aller vérifier, par contre ceux là je vais vraiment vérifier quoi.
Hein. La fiabilité par exemple, c'est aussi des indicateurs qui proviennent de Google en disant New York Times, c'est une source fiable. Minterdial, c'est une source un peu moyenne. Comment est-ce que ces sources sont fiabilisées?
Oui, alors ça c'est un énorme sujet. Alors nous, voilà, on peut pas dire cette source. En tous les cas, on ne prétend pas dire c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est pas notre métier. Il faut absolument, le journaliste, c'est son métier d'aller recouper les sources, voilà, comme il ferait dans la vie réelle. Par contre, nous, technologiquement parlant, effectivement, Google travaille plutôt pas mal hein, sur ce sujet de c'est fiable, c'est pas fiable, c'est ce qu'on appelle le trust chez Google. Et donc, nous, on utilise une partie de ce que Google fait pour dire, oui, ça, ce site-là, il a un trust plus élevé que celui-là. Un site de gouvernement, souvent, il a un trust très puissant. Hein. Un site de médias officiels, il a un trust très puissant. Et donc, évidemment, nous, on utilise ça pour donner aussi un niveau de fiabilité d'une source.
Ouais, je suis en train d'apprendre plein. Avant, il y avait une terminologie qui était l'autorité, Google Authority. Est-ce que c'est lié à ce trust ou c'est le nouvel terme, c'est trust?
Oui, alors y a Google, sur ces sujets, ne donne plus un... Il y avait le PageRank, voilà, il ne communique plus sur ces sujets-là. Par contre, il y a pas mal d'outils, en fait, qui ont leur propre terminologie. Tu vas avoir ce qu'on appelle le Domain Rating, par exemple, qui est globalement une mesure du trust, hein, de l'autorité du site. Mais la terminologie a changé, mais la philosophie reste la même, en fait.
Bien sûr. C'est cool. Donc, tu as parlé de Atomic Content. Donc, ça, c'est un bouton magique sur ton site. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec... plus que jouer. Mais c'est jouissant, je dois dire, d'utiliser parce que c'est tellement puissant. Et ensuite, il propose... il propose de donner une structure. Alors... quels sont les boutons les plus utilisés dans les créations du contenu? Est-ce que c'est plus j'ai mon titre, c'est le meta description que je voudrais que soit systématiquement créé par vous, c'est la structure et je remplis le reste. Quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées par tes clients?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Nous, on regarde évidemment l'utilisation, mais aussi quand on lance une fonctionnalité, on regarde l'adoption. Ouais. Et Atomic Content, c'est la fonctionnalité qui a une adoption la plus incroyable hein, chez nous. Donc, on regarde la propagation et l'adoption et l'utilisation quotidienne, hein, en fait. Hein, Donc, Atomic Content, c'est né d'un constat quand le Gen AI est arrivé. On a dit, ouais, c'est génial. Et c'était, C'est une réflexion au niveau du board hein, qu'on a eue en disant « Ok, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est-à-dire tout le monde va pouvoir appuyer sur un bouton pour générer du contenu. Or, nous, nos clients, ce qui compte, ce n'est pas générer du contenu. Ce qui compte, c'est générer du contenu de qualité. Et surtout, de se différencier. Parce que si tu as des millions de contenus qui sont tous pareils, ok, tu fais partie du million de contenus. Donc, ok, ça veut dire quoi un contenu de qualité qui se différencie? Et c'est ça qu'on a travaillé, en fait. Hein. Et on a travaillé, jusqu'à, on a mis un an et demi hein, pour sortir Atomic Content pour un niveau de satisfaction qui correspondait à ça. Et nous, on a la chance d'avoir un credo qui est de dire on écrit pour une cible d'abord en prenant en compte Google. Et tu as dû voir dans notre système, c'est qu'on a une note qui s'appelle le Content Score, qui va être cette adéquation en fait entre ce que l'audience demande, ce qu'elle va l'intéresser et ce que Google demande. Et on avait la chance d'avoir ça. Et donc, on a dit, un des premiers critères, c'est que quand on demande à un humain de rédiger, on lui dit, il faut que tu aies un content score minimum de 75. On a dit, l'IA, Atomic Content, il faut que ça fasse pareil. Hein. Donc, c'est un content score élevé qui a une garantie que tu vas intéresser ta cible, tu vas répondre à des sujets autour de ta cible. Et puis, tu as écrit en fonction des exigences de Google. Donc, tu vas devenir visible, mon Google. Parce que notre credo aussi, c'est si tu écris un contenu formidable, les personnes le voient, ça ne sert pas grand-chose.
N'est-ce pas?
Voilà. Donc, c'est parti de ça, en fait, Atomic Content. On veut que ce soit avec de l'IA, mais de l'IA différenciante pour les clients. Mm-hmm. Et donc, c'est de la qualité. Ensuite, l'autre sujet, tout de suite, on a discuté avec nos clients, en fait. Hein, c'était quoi la qualité pour eux? Ils ont assez vite dit, ok, moi je veux pouvoir écrire selon, moi j'ai un style en fait, j'ai un style de marque. Et ça c'est quelque chose qui est en alpha pour le moment chez nous, qui va bientôt sortir en bêta chez un certain nombre de clients, qui est comment je donne ma brand voice. Ok, donc ça c'est vachement important, et on a des clients qui ont des besoins différents là-dessus. Il y a des clients où la brand voice est très organisée, documentée. Donc, ils pourront donner leur documentation à notre IA qui va la comprendre et boum, la mettre en œuvre. Il y a des clients, au contraire, c'est pas du tout documenté. Mais par contre, il y a un existant. Il y a des articles déjà qui existent et donc on peut apprendre de ces articles ce qu'est leur brand voice. Tu vois. Et puis, ce qui était aussi important chez nos clients, c'est qu'il y a des clients qui restent très attachés à écrire eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait possible toujours hein, chez CMJ. Et puis, ou des clients qui veulent faire un mix. Donc, avec CMJ, tu peux à la fois dire, CMJ, donne-moi plutôt des titres de paragraphes, ma structure, et puis moi, je vais écrire les paragraphes derrière. Ça, tu peux le faire. Tu peux avoir donc l'IA qui va t'aider à créer ta structure. Ou bien, tu peux dire, OK, ce paragraphe-là, là, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas trop quoi dire. Ah, l'IA, donne-moi des idées, écris-moi. Et puis, tu peux choisir, dire OK, réécris, tac, je choisis pas, ou je choisis, puis je retravaille derrière. Donc, c'est aussi cette souplesse, parce que nous, on a une multitude de clients qui travaillent différemment. Et donc, la force aussi de notre IA, c'est que ça s'adapte un peu à tous les cas de figure de nos clients.
C'est passionnant, et je dois dire que c'était presque hilarant. Ce forward slash, quand je pouvais juste appuyer forward slash, et puis bouf, tu regardes ça émerveillé, comme j'étais avec Gen AI par ailleurs, enfin c'était au tout début, je trouvais ça super, mais le fait que vous y arrivez à améliorer d'ores et déjà les contenus hallucinants, entre guillemets, qui viennent de ChatGPT ou autre. Alors, le choix de brand voice, ça, c'est quelque chose qui me marque, car en fait, c'est quelque chose dont je parle. C'est la capacité, et je trouve qu'il sera à l'avenir un avantage compétitif, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans une base de données tes informations à toi, qui permettent non seulement d'avoir brand voice, mais avoir une base, un learning data set ou d'apprentissage qui va être propriétaire. Car en fait, Google, enfin ChatGPT et compagnie, ils prennent sur tout l'Internet qui est disponible. En revanche, moi, dans ma société, je suis une banque, j'ai des clients, j'ai une manière de les aborder, je parle de cette manière, j'ai un temps de réponse qui est systématiquement protocolaire, 24 heures de réponse à toute interrogation. Et j'ai un style, j'ai des produits. Et donc, vous êtes capable de augmenter la base de données d'apprentissage spécifiquement pour chaque client.
Oui, alors là aussi, ça a été une réflexion très très intéressante qu'on a eue en amont, qui est de dire avec le Gen AI, la valeur n'est plus dans l'écriture. Ça complexe, ça restructure la chaîne de valeur. La valeur, elle est dans l'aval et l'amont. L'aval, c'est comment tu fais pour que l'IA écrive bien. On revend sur ces trucs de qualité, voilà, la performance, voilà, se différencier. Donc, tout ce truc amont, là, vachement, vachement important. Et la brand voice en fait partie. Hein, c'est comment je rends mes contenus uniques, différenciants. Et si tout le monde fait des contenus qui coûtent un centime avec du chat GPT, bah, c'est… You pay peanuts, you get monkeys. Hein. Ben, c'est exactement ça. Hein. Donc, c'est comment tu enrichis, tu te différencies. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la brand voice en se disant il faut que les clients, non seulement ils puissent donner leur style, parce que c'est un facteur de différenciation, mais effectivement aussi alimenter avec de la data dans le futur, avec de la data personnelle, privée. Hein, du coup, qui est différenciante. Et ça, ça fait partie d'ailleurs de ce que Google, tu vois, ce que Google parle dans ses algorithmes, il parle de EAT. Hein, et ça, c'est l'expérience. Le E de expérience dans Google, c'est ça en fait. Hein, c'est donner, par exemple, je sais pas quoi, je suis dans l'immobilier. Et j'ai fait une étude, j'ai des données propriétaires hein, qui me permettent de communiquer sur quelque chose que les autres n'ont pas. Et ben ouais, ça c'est différenciant, c'est ça qui va faire la différence de contenu qui vont sortir du lot en fait.
Et enfin, ça me fait penser, moi, tout bêtement, moi, dans mon cas de figure, j'aimerais bien savoir quelle est ma voix de marque. J'ai écrit 2500 articles sur les 20 ans que je fais le blogging. Ça fait un contenu, ça fait une masse de contenu. J'ai aussi écrit des livres. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que Google dirait ou qu'est-ce que vous direz et ma voix de marque. Ça, interrogation.
Ouais, alors je me permets de rebondir là-dessus parce qu'on a des
Vas-y.
très chouettes idées à ce sujet. On va sortir normalement en avril un module, là, pareil, c'est un an et demi de travail, un module qui est Competitors. Ce module va te permettre de comprendre comment tes concurrents produisent du contenu, où est-ce qu'ils tirent leurs revenus, c'est quoi ils sont en train, tiens, d'écrire sur telle thématique. Parce que tu sais, dans le SEO, il y a une inertie. Donc, s'il y a un concurrent qui prend de l'avance sur un sujet, c'est très compliqué de le rattraper si tu laisses passer trop de temps. Hein. Et après, il devient hyper dominant. Donc, ce module va te permettre de surveiller tes concurrents, de comprendre ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont en train de travailler en termes sémantiques, hein, thématiques. Ça, c'est la première version. Les versions suivantes, il y a des sujets de brand voice aussi. C'est quoi my brand voice versus celle de mes concurrents?
Et je suis
C'est
certain, ce sujet, parce qu'en fait, l'intérêt pour les marques, souvent, enfin, j'ai des exemples dans ma tête de personnes qui ont été embauchées, qui étaient très bons dans les social media, qui étaient capables d'écrire des tweets, des posts hyper engageants, parce que un peu d'humour, parce que des émoticônes bien faits, etc. Eh bien, cette personne, à un moment donné, disparaît. passe ailleurs. Ils doivent te rembaucher, peut-être qu'ils vont aller chercher une agence. Mais garder la voix dans le temps, c'est, enfin, consistency, de la constance d'une marque aussi est important. Et donc, cette proposition, enfin, la notion juste même d'avoir une voix de marque va permettre d'avoir une constance dans la manière, malgré les mouvements des journalistes ou des écrivains, des social media managers.
Oui, alors je suis complètement d'accord là-dessus, et l'IA est un vrai atout pour ça. Mais il y a un autre sujet, c'est les risques. Je suis une marque très connue, L'Oréal par exemple.
Disons.
Et c'est compliqué, mon site web il est énorme, il y a plein de gens qui produisent du contenu, qui publient des choses. Et bon, si je suis L'Oréal, j'ai forcément des guidances hein, sur, on va dire, la corporate brand. Hein, ok, je veux, dans ma marque, Ombrelle, je veux porter un certain nombre de messages sur, je ne sais pas, la diversité, l'inclusivité, plein de choses. Et puis après, ça se décline. Hein, ça se décline dans les RH, par exemple. Ok, ma marque employeur. Ok. Et puis après, il y a la réalité terrain. C'est-à-dire, concrètement, il y a telle page qui est écrite de cette façon-là, et qui peut-être n'est pas du tout cohérente avec la marque Ombrelle, par exemple.
Oui, bien sûr.
Tu vois le sujet. Hein? Et ça, voilà, c'est un sujet aussi où on pourrait, nous, aider les marques à être sûres d'avoir une cohérence, en fait.
Ça explose la tête, là, Bertrand.
On est là aussi pour parler du futur.
Eh bien oui, mais enfin, c'est juste... Enfin, je voulais utiliser le mot hallucinant. Les opportunités que vous représentez sur le créneau. Alors, dans ce que vous faites, vous avez facilement intégré GenAI. Vous avez choisi ChatGPT. Est-ce que vous regrettez d'avoir choisi ChatGPT? Est-ce que vous pouvez, dans un moment facile, changer pour Gemini ou je ne sais pas qui d'autre, Bard, parce que vous trouvez en fait que l'autre est mieux? C'est le mieux de ce qu'il dit.
Alors nous, notre positionnement, c'est on veut choisir le LLM le meilleur. Et donc, on veut être agnostique, hein, parce que c'est très important. C'est ça une garantie, finalement. Notre rôle, c'est aussi apporter au client la meilleure solution, en fait, et peu importe derrière ce qu'il y a. Donc, actuellement, on n'est pas sur ChatGPT, on est sur GPT-4. Nous, on travaille en API. Hein, voilà.
Bien sûr.
C'est essentiellement ce qu'on utilise en production aujourd'hui. Et on l'utilise via Azure,
Microsoft.
Via la couche Microsoft. Il se trouve que nous, on a été sélectionnés, on fait partie des 12 boîte sélectionnée par Microsoft dans la GenAI qui compte. Hein. Donc, on a du coup accès à des technos, on a eu accès à du savoir-faire. Microsoft est très, très pushy sur ces sujets. Hein. Donc, ça, c'est très chouette. Mais demain, si... Et nous, on se benchmark. On est tout le temps en veille sur ces sujets de GenAI. Ça bouge très, très vite. Et on benchmark, en fait. Et si demain... on s'aperçoit que soit pour telle features ou pour globalement c'est tel modèle qui marche le mieux, on switchera en fait. Parce que nous, ce qui compte, c'est apporter la meilleure solution à nos clients.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.
Donc, OpenAI étant lié à Microsoft, évidemment, ça me fait penser, dans mes jours chez L'Oréal, il y avait aussi des éléments qui faisaient qu'un switch étaient plus lourds. Par exemple, on faisait de la coloration des cheveux, tu avais des formules pour tel et tel résultat, pour telle et telle dame, et quand tu changeais de la coloration, ben ça comprenait tout un changement, un mix, un beans. Là, si vous changez de GPT-4 à Bard, ça, j'imagine quand même qu'il y a une espèce d'investissement de temps pour pouvoir, en plus, changer avec le ton de voix dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, des autres éléments, l'intégration, enfin, pas aussi facile. En tout cas, je l'imagine pas aussi facile que juste appuyer sur un bouton pour changer l'un de l'autre.
Oui, alors pour nous, c'est un gros travail. Le switch pour le client, c'est complètement neutre. Oui, c'est ça aussi que, voilà, ce qu'on veut. Oui. Et après, il y a une industrialisation qui est en train de se créer. Il y a des tooling qui sont en train de se créer pour petit à petit rendre les choses beaucoup plus agnostiques et plus faciles. C'est ça, c'est l'écosystème autour de l'IA est en train de beaucoup se développer, en fait. Et tout ce qui est tooling qui permettront justement de facilement faire des prompts agnostiques, rendre les choses plus faciles à switcher. Ça, c'est en train de... Il y a plein d'outils qui sont en train de se développer sur ces sujets, en fait, et qui vont nous permettre de rendre des choses plus faciles.
Ces outils, ils sont principalement provenant des États-Unis ou c'est des Français ou c'est partout, c'est des Indiens?
Alors, je ne saurais pas te répondre. Là, c'est mon CTO mon associé Nicolas qui sont très, très au point là-dessus. Et je ne sais pas te dire.
Oui, non, mais non. Les langues, vous avez 15 langues. Combien ça rend difficile la tâche? Car en fait, j'écris moi dans plusieurs langues également. Et je sais que j'ai des voix différentes quand je parle avec. En français, je suis quelqu'un un peu différent de celui qui parle en anglais ou en espagnol ou ailleurs. Et quand vous avez vos 15 langues, quelles sont les complications pour arranger que chaque langue soit aussi bonne que l'autre?
Alors ça, c'est un sujet pareil qu'on a traité très, très en amont. Quand on a créé CMJ, on a tout de suite eu cette ambition de dire qu'il faut que ce soit multilingue. Du coup, on a tout penser pour ça. Et alors, pour les langues latines. et donc, pour les langues latines, nous, rajouter une langue latine, allez, c'est une semaine de travail. Donc, c'est assez simple. Tu vois, on a signé, il n'y a pas très longtemps, Alliance en Turquie. On n'avait jamais fait turc. Ils ont voulu tester. On a sorti le turc en quelques jours et ils étaient bluffés de la qualité. Ils n'y croyaient pas parce qu'on a été très transparents. On leur a dit c'est une nouvelle langue, on va le faire. Et nous, ça nous intéresse aussi que vous nous donnez du feedback. Ils ont dit vous parlez
parce que
turc.
Toi, tu n'es pas capable de vérifier le
non,
le turc.
Eh ben non, justement. Alors là, c'est un des sujets. C'est que quand on crée une nouvelle langue, il faut qu'on ait un feedback de quelqu'un qui parle la langue. Et dans les équipes de CMJ, on n'avait personne qui parlait turc. On a sorti le hongrois, pareil. Mais là, on le fait avec un client, en fait, à ce moment-là, qui, lui, c'est un peu gagnant-gagnant. Il sait qu'il est en bêta et il nous donne des feedbacks. Mais franchement, comme c'était très bien pensé au démarrage, on a très peu de surprises sur les langues latines. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a... Voilà, le chinois, le japonais, la non latine, aujourd'hui, comme ça n'avait pas été prévu initialement, c'est un peu plus de travail. Alors, pour le moment, on ne les a pas, ces langues-là, mais on travaille dessus pour que ça soit possible, parce qu'on a des demandes de nos clients, le coréen, le japonais, le chinois, le russe, toutes ces langues.
Sachant qu'il y a un certain nombre de langues qui n'ont pas autant de contenu dans lequel peut puiser le GPT-4 pour aller chercher à créer du contenu, parce qu'il y a des langues qui... Enfin, après, il y a même des cultures qui sont en style plus oral que d'écrit. Et donc, celle-là, évidemment, c'est un peu hors sujet. On va, parce que sur le temps qui nous reste, je voudrais parler pour les journalistes. Il y a déjà un chamboulement pour le journalisme de manière générale, les médias, le coût de l'investigation, on n'en peut plus dans la voie. Il y a une crise sur le modèle de business pour les journalistes. Je vois en ce que tu fais, vous faites quand même beaucoup d'intégration de l'IA plus l'humain. Il y a quand même un rôle important de saisir, d'améliorer, de peaufiner, de choisir des choses. Évidemment, il y a ceux qui sont, on va dire, plus paresseux qui vont faire atomic content et publier direct. Enfin, ça les regarde. Mais l'éthique de ça, car en fait, pour un journaliste ou même pour moi qui écrit, j'estime que j'écris, je m'appelle un écrivain. Est-ce que je peux rester écrivain en utilisant SMG? Et donc, l'éthique pour un journaliste, comment est-ce qu'il doit gérer le fait qu'il a utilisé l'IA? Google, comme tu m'as expliqué avant, c'est transparent parce que ce qui est intéressant pour Google, c'est que ça correspond à ce que veut lire le lecteur. Mais de l'autre côté, pour nous, comment devrait-on regarder cette éthique?
Oui, ça, c'est un sujet passionnant. On sait que nous, on a pas mal de clients dans les médias qui réfléchissent à ces sujets. Les clients qui sont très en avance sont aux États-Unis sur ces sujets. Et puis, on a des réflexions plus longues et profondes, peut-être, sur des clients français. Là-dessus, je pense que ce que tu as dit, ce qui est très important, c'est à tous les cas de notre point de vue, c'est que Google aujourd'hui a très clairement dit, il l'écrit même, l'IA c'est pas un sujet, il y a pas de problème d'écrire du contenu avec de l'IA. Ce qui est important, c'est que le contenu soit intéressant pour le lecteur. Google est très cohérent d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'ils disent « moi je veux du contenu qui soit intéressant pour les lecteurs hein, ». Donc ça n'a pas changé. Finalement, le comment il est écrit, sujet. Par contre, pour effectivement, le journaliste, c'est un vrai sujet, et pour une rédaction, c'est « je signe Bertrand Girin », alors que c'est écrit à 80% par de l'IA, « je signe Bertrand Girin ». Augmenté par de l'IA,
par SMJ,
je fais comment hein donc ça c'est des sujets où chaque rédaction réfléchit. Alors il y en a certains qui sont tant qu'on n'a pas décidé interdit d'utiliser l'IA. On a des clients qui sont comme ça. Et donc nous on peut désactiver. Hein, les clients peuvent désactiver par exemple l'IA. Tant que voilà, les règles du jeu n'ont pas été clairement mises. Puis il y en a d'autres qui font en marchant, qui sont très pragmatiques. Et ça, je dois dire, je ne sais pas s'il y aura au niveau mondial journalistique des best practices qui vont se créer par la réalité de comment chacun fait. En tous les cas, nous on voit que de parmi nos clients, ils avancent différemment sur ces sujets, en tous les cas à un rythme différent, une vitesse différente.
Ça me fait penser à quand on était sur Twitter, maintenant X, tu avais une marque @L'Oréal, ensuite tu avais @L'Oréal et deux initiales pour démarquer qui était l'écrivain sur ce poste corporative. Et je vois bien la difficulté. En revanche, je voulais quand même signaler avec SMG un autre truc sympathique, c'est que tu as des fonctionnalités sans faire la création du contenu, l'optimisation du contenu. Donc, je pouvais intégrer, importer un lien et il allait me dire, ça c'est un score de 60. Voilà comment améliorer ton contenu. Quitte à rajouter aussi de l'IA, mais il y a déjà une fonctionnalité qui est sans créer plus de contenu, amélioration de ton contenu. Et ça, je trouve ça déjà appétissant, pour ne pas dire le reste. On va voir.
Et tu vois, je rebondis là-dessus, parce que là aussi, c'est un vrai sujet pour les clients médias, qui est vraiment approché de manière très, très différente de certains groupes, de certains clients à d'autres. Certains médias sont très réticents à réécrire un article. Ça pose des sujets éthiques, en fait. Hein. Ça peut poser des sujets. Donc, optimiser, c'est réécrire. Hein. Modifier avec date, etc. Il y a des clients qui sont très, très matures sur ces sujets, par exemple. On a des clients aux États-Unis qui ont des équipes dédiées pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le journaliste d'origine qui va réécrire, c'est des équipes dédiées et ils sont à fond sur le sujet parce que ça marche très, 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 très bien. Nous, en fait, on voit hein, nos clients, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui réécrivent, pas que dans les médias, partout. Pourquoi ? Parce que quand tu as des pépites, ce qu'on appelle nous des pépites, c'est-à-dire des assets digitaux, tu as un article qui est déjà bien positionné sur un sujet, mais qui est dixième, par exemple, sur Google. Alors, il a fait tout un chemin par rapport à quelqu'un qui est centième, mais dixième, tu as zéro en trafic. Par contre, passer de la dixième place à la première place, c'est beaucoup plus facile que si tu es en centième position. Nous, cette fonctionnalité, tu parlais de quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. Cette fonctionnalité, ce qu'on appelle Pages chez nous, qui est détectée parmi, j'ai 3 millions de pages, lesquelles sont des pépites, c'est-à-dire lesquelles où je vais mettre mon effort pour que ça rapporte le plus en trafic, en vente si je suis un e-commerçant, en lead si je suis une banque. Ça c'est le ROI, il est juste incroyable. Et donc, dans les médias, ceux qui ont compris ça, ils ont compris aussi que c'est un sujet d'organisation, parce que si c'est les mêmes équipes qui font, c'est compliqué en fait. Ceux qui sont mis en marche, hein, qui sont des Américains, généralement c'est les clients américains, ça marche très très bien.
En l'occurrence, pour la plupart de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est des SEO, c'est la capacité de rendre la page plus lisible pour Google. Il va dire, en fait, c'est mieux pour les clients que ça passe en numéro 1. Mais le problème pour moi là-dedans, enfin, un autre enjeu, c'est que Google change les règles. Et donc, quand vous avez un changement de pratique, le H2, H3, l'organisation tags est moins intéressant. Il faudrait changer. Donc, vous êtes un peu, enfin, avec ton co-fondateur, main en main avec comment Google fonctionne pour adapter CMJ.
Oui, alors ça aussi, c'était très... On a conçu CMJ pour que ça s'adapte complètement en temps réel au changement d'algorithme de Google. On fait du rétro-engineering, si tu veux. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, tu as une page qui a perdu tout d'un coup des positions, tu peux aller mettre à jour ton content score. Si tu vois que ton content score chute, c'est probablement parce que ce qu'on appelle les intentions de recherche, par exemple, ont changé. Quelqu'un qui va, je sais pas, dire je cherche une assurance voiture, peut-être que maintenant les gens cherchent autre chose, ils cherchent plus un comparateur, ils cherchent voilà. Et donc si toi tu t'es pas adapté, ton content score va chuter et ta position va chuter. Et donc tu peux mettre à jour. Hein. Nous on a des clients qui ont un protocole toutes les semaines, les pages clés, ils mettent à jour le content score, ils vérifient qu'ils sont toujours au top. Est-ce qu'ils savent que les mises à jour de Google sont régulières, les choses évoluent et donc il faut tenir à jour. Et donc ils ont des pages dites clés qui vont surveiller en permanence et ils vont vouloir qu'elles soient au top tout le temps, tout le temps.
C'est juste incroyable. Bertrand, le temps est cher. Je te remercie d'avoir expliqué tout ça. C'est juste incroyablement passionnant pour tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter, chercher du CMJ, te suivre ou contacter si besoin est? Quels sont les meilleurs liens?
Alors, c'est cmj.com, notre site web.
S-E-M-G-I.
Non, J-I, S-E-M-J-I.com, bien sûr. Ensuite, on produit énormément de webinaires, de livres blancs. Il y a plein de ressources hein, très intéressantes, des case studies sur notre site. Je vous invite à participer, à télécharger, tout ça est gratuit. On anime notamment ce qu'on appelle le SEO Square, qui est l'événement en Europe le plus important. C'est nous qui organisons ça, SEO Square, deux fois par an. Ça rassemble plus de 5000 personnes en ligne avec des conférences juste incroyables. On sélectionne des experts dans leur domaine qui vont parler de sujets autour du contenu. Donc, il y a le SO Square qui arrive en mars en France, la prochaine version, et en avril aux États-Unis. Et ça, c'est, voilà, c'est du pain béni quand les gens, si les gens sont intéressés par ces sujets, ils peuvent s'inscrire. Tout ça est gratuit.
Je te remercie. Je vous félicite pour le vrai
merci.
Travail. Et à très vite. Je suis ravi. Merci, merci, merci.
Merci, Minter.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
I like the feel of a stranger tucked around. Anticipating the thrill of your intellect, maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man. Challenge my fate. I'm a convinced man. Competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. The feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. Convinced man, admit to the test. I'm a convinced man.
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man in the arms of a woman.
Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.